Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute du bulletin d'information de la rédaction française de Radio Prague. Au sommaire, aujourd'hui, une plainte bientôt déposée contre la députée Vlasta Parkanova, la démission d'un adjoint au nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, et enfin une affaire d'espionnage qui ternit un peu plus les relations tchéco-ukrainiennes. La police anticorruption a reçu ce lundi l'aval de la Chambre des représentants en vue de poursuivre la députée Vlasta Parkanova dans le cadre de l'affaire sur l'achat douteux d'avions de transport militaire CASA, du temps où elle était ministre de la Défense. La porte-parole de la police a ajouté qu'une plainte à son encontre serait déposée ces jours-ci. La semaine dernière, les députés avaient décidé de lever son immunité parlementaire. Elle est accusée d'avoir joué un rôle dans l'achat d'avions militaires pour un montant très supérieur au coût réel estimé. Ce week-end, le chef de la police anticorruption, Tomasz Martinets, défendant le travail de ses hommes, a déclaré qu'il ne s'agissait pas du seul élément à charge dans une enquête engagée il y a déjà 2 ans. Alexander Novak, l'ancien sénateur et maire de la ville de Chomutov, en Bohême du Nord, a été condamné ce lundi par le tribunal d'Oustinia de Labem à une peine de 4 années de prison pour corruption. Il a été jugé coupable d'avoir touché des pots de vin pour une somme avoisinant les 1,6 million d'euros. En 2006, alors qu'il était maire de Chomutov, il avait illégalement opéré la vente des parts de différentes sociétés appartenant à la municipalité à une société allemande. Jusqu'à lundi 11h, les entreprises ont pu déposer leur candidature pour l'appel d'offres sur la première étape de la rénovation de l'autoroute D1, l'autoroute tchèque la plus longue et la plus ancienne qui relie Prague à Brno. Les travaux de réparation des 5 premiers tronçons devraient débuter à l'automne et s'achever en 2018 au plus tôt. Le fournisseur de logiciels antivirus Avast, basé à Prague, va prochainement faire son entrée en bourse aux États-Unis. Fondée en 1988, la société tchèque compte placer 9 millions de titres à un prix compris entre 9 et 11 dollars et devrait ainsi lever jusqu'à 100 millions de dollars. Positionnée sur le marché très porteur de la sécurité informatique, la société sera valorisée autour de 930 millions de dollars. Philippe Melzer, un adjoint du ministre de la Justice, Pavel Blažek, a remis ce lundi sa démission. Petra Hruba, la porte-parole du ministère, n'a pas souhaité donner de commentaires. Cette démission pourrait être liée à la récente mise à pied de l'ancien ministre de la Justice, Jiří Pospíšil. Le tribunal de Kiev a condamné à 4 ans de prison un homme qui aurait pendant plusieurs années vendu des informations confidentielles au service secret de l'armée tchèque. L'information a été publiée ce lundi par les journaux ukrainiens. L'affaire remonte à mai 2011. À l'époque, les autorités ukrainiennes avaient expulsé 2 diplomates tchèques suspectés d'activités d'espionnage. Pour Prague, il s'agissait d'une réaction à l'asile politique accordée à l'ex-ministre de l'économie ukrainien Bogdan Dalinichin, alors sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Kiev. Un peu de culture maintenant avec l'ouverture ce lundi dans la station thermale de Luha-Chovice, en Moravie du Sud, de la 21e édition du festival de musique intitulé Jana Tchèk et Luha-Chovice. Au programme du concert d'ouverture donné par la Philharmonie Bohuslav Martinů de Zlín figure la Sinfonietta, une œuvre pour orchestre de Leoš Jana Tchèk et la symphonie numéro 9 d'Antonín Dvořák. Parmi les têtes d'affiche du festival, la mezzo-soprano Dagmar Petskova, la violoniste Gabriela Demeterova ou encore la chanteuse Iva Bitova. Le festival s'achèvera le 21 juillet. Du sport pour finir, la tchèque Barbora Záhravová-Strýcová, 61e joueuse mondiale, s'est inclinée dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Palerme devant l'italienne Sara Errani en 2-7, 1-6, 3-6. Et enfin, un brin de météo. Lundi, jour de la fête des Louboch, le temps en République tchèque est nuageux avec de belles éclaircies sur la majeure partie du territoire. Les températures restent plutôt fraîches pour la saison et varient entre 17 degrés et 21 degrés. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information que Pierre Ménian vous a présenté. La suite du programme, tout de suite, avec Magdalena Rozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague et merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Retour dans cette émission à l'actualité du week-end écoulé. Ce n'est que 20 ans après la révolution de velours que les députés tchèques ont approuvé l'indemnisation et la restitution aux églises des biens saisis par le régime communiste entre 1948 et 1989. Mais cette loi controversée est loin d'être acceptée par tous les partis politiques. Nous vous en dirons plus dans un instant. Début aujourd'hui d'une mini-série de l'été que nous vous proposons sur Radio Prague. Chaque semaine, nous vous proposerons donc un petit questionnaire de Proust avec une personnalité tchèque. Ce lundi, ce sera avec le peintre Samuel Moucha. Le volet sportif de cette émission, ça sera une interview exclusive accordée à Radio Prague par le gardien de but Petr Čech. Ce dernier organise en ce mois de juillet à Prague un stage destiné aux jeunes footballeurs de tout le pays. Ce sera donc dans la deuxième partie de cette émission. Très bonne écoute à toutes et à tous. Après 20 ans d'après-discussion sur l'indemnisation des églises spoliées sous le régime communiste, les députés tchèques ont enfin voté dans la nuit de vendredi à samedi une loi qui prévoit de restituer aux églises du pays 56% des biens confisqués. Le coût total des restitutions et indemnisations devrait avoisiner 5 milliards d'euros. Mais cette loi, parmi les plus attendues et les plus controversées depuis la chute du régime totalitaire en 1989, devra encore être soumise au Sénat où elle risque d'être rejetée par l'opposition social-démocrate.
Přihlášeno je 182, prohlasovalo 93, proti 89.
Après un débat de 6 heures, la Chambre des députés a adopté vendredi après minuit le projet de loi sur la restitution des biens saisis aux églises tchèques suite au putsch communiste. 93 des 182 députés présents ont voté pour, 89 se sont prononcés contre le texte, notamment les députés de gauche, dont l'opposition. Lubomír Zaorálek est vice-président du Parti social-démocrate qui ont bloqué l'adoption de la présente loi au Sénat. Il explique.
Nous pensons qu'il est important de résoudre cette question, de restituer aux églises les biens qui peuvent être restitués. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est cette compensation financière très généreuse de 60 milliards de couronnes qui s'élèvera au final, compte tenu de l'inflation, à 90 milliards et sera échelonnée sur 30 ans. Cette somme n'a pas été justifiée et elle dépasse tout simplement les moyens dont l'État dispose.
L'État tchèque prévoit en effet de restituer à 17 églises reconnues du pays 56% de leurs biens confisqués pour une valeur totale de 75 milliards de couronnes et à leur verser progressivement sur une période de 30 ans une compensation de 59 milliards de couronnes pour les biens ne pouvant être restitués. Le texte modifie également le système actuel de subvention publique des églises avec une réduction progressive à partir de 2013 des financements de 5% par an. Après une période transitoire de 17 ans, les églises ne devraient plus être subventionnées par l'État. Bâtiments, terres agricoles, mais également étangs et forêts devraient être restitués aux églises tchèques. Les représentants de ces différents cultes ont accueilli le feu vert donné aux restitutions avec un optimisme mesuré, conscient du fait que l'entrée en vigueur de la loi est encore incertaine. Le président du Conseil œcuménique des Églises, Joël Rummel, explique l'importance à ses yeux de cette loi, déjà envisagée sous différentes formes par tous les précédents gouvernements.
Il est erroné de parler de restitution des biens aux Églises, car tous les biens dont disposaient les Églises ne leur seront pas restitués. Il est plus approprié de parler d'une tentative de régler le problème des relations entre l'État et les Églises, car cette loi aborde aussi une question importante. Comment compenser les églises pour les biens spoliés, relativement nombreux, mais qui ne peuvent plus leur être rendus? Elle aborde également la question du financement des églises tchèques, question qui se pose depuis 90 ans mais qui n'a jamais été résolue. Maintenant, l'occasion se présente de faire évoluer les choses, mais l'opinion publique, elle, n'est pas tout à fait consciente de cela. Elle a conservé une manière de voir qui lui a été imposée par les communistes et qui a d'ailleurs été formulée au Parlement par l'ancien président du Parti communiste Grebeníček, selon les mots « les prêtres veulent s'enrichir ».
A výstižnější říct, je to pokus o narovnání vztahu mezi církvemi a státem.
Il faut ajouter que cette loi sur les restitutions des biens aux églises, étape importante dans le règlement des comptes du pays avec son passé communiste, est attendue avec impatience par de nombreuses communes tchèques. Ces dernières disposent de terrains qui appartenaient jadis à l'église mais qui sont aujourd'hui inexploitables. Radio Prague a préparé pour vous une mini-série de l'été. Cette année, nous vous proposons un petit questionnaire de Proust. Plusieurs personnalités tchèques que nous apprécions à Radio Prague et que nous avons déjà interrogées par le passé se sont prêtées à ce petit jeu des questions-réponses. Aujourd'hui, l'artiste franco-tchèque Samuel Moucha, interrogé par Anna Kubeshta.
Samuel Moucha, alors, quel est ton principal trait de caractère ?
La sincérité.
Qu'apprécies-tu le plus chez tes amis ?
La sincérité.
Quel est ton principal défaut ?
Il y en a beaucoup. L'orgueil, la susceptibilité. Je me bats avec la jalousie.
Quelle est ton occupation préférée ?
La gravure.
Ton rêve de bonheur ?
Ça paraîtrait un peu bateau de dire la liberté, le bateau ivre.
Quel serait ton plus grand malheur ?
La perte d'essence.
Qu'est-ce que tu voudrais être ? Peut-être qu'est-ce que tu voudrais être d'autre ?
Un grand aventurier.
Le pays où tu désirerais vivre ? Une question intéressante, sachant que tu es déjà partagé entre deux pays, la France et la République tchèque.
J'entendais un ami parler du Maroc en assez bons termes récemment. J'avoue que ça pourrait me gratter l'oreille. Mais en fait, déjà je m'appelle Mouche. Donc j'ai pas vraiment l'intention de poser mon bagage d'une manière définitive à quelque endroit que ce soit. Mais j'avoue que mon quartier général, je le préfère à Prague qu'à Paris. Donc pouvoir bouger depuis une place ronde dans d'autres pays de la planète.
Quelle est ta couleur préférée ?
L'indigo.
Tes auteurs favoris en prose, quels sont-ils ?
Hermann Hesse, Turgenev. Je sais pas si je devrais dire parce que je connais pas encore très bien, mais je suis en train de lire son autobiographie, c'est Trotsky, ma vie. Il écrit très très bien. Il y en a beaucoup, hein, mais là j'arrive pas vraiment à... Vahrabal peut-être.
Tes peintres favoris, puisque quand même tu es artiste.
Peintres favoris ? On peut dériver directement sur les graveurs.
On peut dériver sur les graveurs.
Alors j'adore Vachal, j'adore Lindward, auteur américain méconnu, mais j'adore Paul Klee. J'aime beaucoup les années, en fait j'aime beaucoup le XXe siècle. Faut aussi dire que je connais moins tous les grands classiques, mais si j'avais une autre période, ce serait la Renaissance, évidemment, le Da Vinci et Michelangelo, etc. Bon, la Renaissance italienne, florentine. J'aime beaucoup moins tout ce qui est happening et installation, ce qu'on considère comme l'art contemporain, qui me laisse vraiment béat d'anti-admiration, béat de désespoir, enfin non, même de rage. Je parlerai pas de l'abstraction d'une manière générale, mais je parlerai plutôt de ce qu'on en fait en ce moment avec... pour la plupart, hein, il ne faut pas faire de grosses généralités, mais récemment, je suis allé voir une exposition où on vendait un caillou à 3000 euros, un projecteur à 5000, et bon.
Le don de la nature que tu voudrais avoir.
Le don de la nature. Pourquoi pas être Vulcain ?
Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence.
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. L'avarice, à savoir... Non, je sais pas, la méchanceté, la petitesse, ce truc que j'estime comme faisant partie de chacun de nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on veut bien l'excuser, qu'on voilà, enfin, je parlerai de ça, quoi.
Quelle est ta devise ?
Alors, faut que je m'en souvienne, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, quoi, c'est pas la mienne de devise, mais j'aime bien celle de, je crois que c'était Lao Tzu, et qui disait... S'extérioriser sans exagération, s'intérioriser sans modération et trouver le juste milieu.
Comme chaque début juillet depuis désormais 7 ans, Petr Čech organise à Prague des stages destinés aux footballeurs en herbe de tout le pays. À Strahov, au camp d'entraînement du Sparta Prague, 160 enfants de 7 à 15 ans se sont réunis durant 2 semaines pour se perfectionner et surtout vivre leur passion pour le ballon rond. Passion, plaisir du jeu et du travail bien fait, mais aussi ouverture d'esprit sont quelques-unes des valeurs que l'un des meilleurs gardiens de but au monde et son équipe de collaborateurs s'efforcent de transmettre aux jeunes participants. Avant de rejoindre ces derniers sur le terrain, c'est ce que nous a lui-même expliqué Petr Čech la semaine dernière dans une interview exclusive en français. Guillaume Narguet l'a rencontré.
Sport en République tchèque.
Quand j'étais un petit gamin, dans l'âge de ce garçon qui vient ici pour la semaine, j'avais jamais une possibilité de passer une semaine, on dirait, dans un champ qui était spécialisé pour le sport. Et j'aimerais bien avoir eu une possibilité de le faire. Parce que quand j'étais petit, on pouvait faire les champs pour une semaine, de faire des choses complètement différentes qui étaient peut-être intéressantes et marrantes pour beaucoup des enfants, mais moi j'étais vraiment un enfant de sport. Et j'ai jamais eu la possibilité de passer vraiment toute la semaine en faisant des sports différents. Et ici, on a eu une idée, si c'était pas possible avant, pourquoi pas maintenant, d'essayer de faire une école ou une semaine ou une stage où des enfants passent le temps avec football. Et on a vu, l'intérêt était très grand depuis le début. On a 160 enfants chaque année. Les demandes sont beaucoup plus grandes que ça, mais on est limité aussi par rapport à la place. Et on est très content que des gens vraiment apprécient ce qu'on fait, parce que les enfants, ils reviennent souvent plusieurs fois avec le sourire. Ils sont très contents de passer des ans ici.
Comment se déroulent les stages? Est-ce que ce sont des stages uniquement 100% football, ou y a-t-il d'autres sports proposés ou d'autres activités à côté?
Non, la plupart du temps, ils jouent au foot. Évidemment, il y a deux entraînements par jour. Mais entre-temps, il y a des activités différentes. Il y a une école d'anglais où ils peuvent apprendre un petit peu l'anglais. Pour les très petits, on va juste montrer comment la langue fonctionne. Juste pour ouvrir la porte pour eux de commencer à être intéressés par la langue. On a aussi des temps où des enfants passent avec les visiteurs. Les visiteurs, ça peut être des gens qui... des anciens footballeurs ou des footballeurs de l'équipe nationale, des entraîneurs, des agents. Et on essaye de leur montrer comment le foot au niveau fonctionne, comment, par exemple, fonctionne en conférence de presse, comment un agent normalement doit travailler avec un joueur professionnel. On a aussi des gens qui viennent d'un diététiste qui essaye de leur expliquer comment il faut manger, comment il faut bien faire des choses pour que le corps est capable de fonctionner à 100%. Et on essaie de leur montrer que c'est pas juste pour le football d'avoir une vie qui nous permette d'être fit, mais c'est aussi pour la vie. Quand on est fit, qu'on a plein d'énergie, on peut faire beaucoup de choses et pas juste jouer au football.
Dans quelle mesure vous participez à l'organisation de ces stages? Est-ce que vous avez votre mot à dire dans le programme? Et une fois que ces stages se déroulent, comment y participez-vous?
Quand on a commencé, on avait le projet, chacun a donné son avis, on a essayé de trouver la structure qui est le modèle et qui est le meilleur possible par rapport aux enfants et par rapport à l'organisation. Et je pense que les deux premières années, on était en train de chercher le modèle idéal. Et je pense que les cinq dernières années, on a trouvé vraiment le modèle qui nous suit, qui suit les enfants. Et on essaye d'amener aussi des visiteurs très intéressants pour les enfants. Mais moi, je passe un jour avec chaque turnus qui compte 80 enfants. Et au moins un jour avec eux, parce que c'est mon école. Et je sais que quand je suis présent, ça fait toute la différence pour les enfants. Et on essaie de garder ça, parce que mon programme est difficile. Le club a déjà commencé la préparation et je suis là juste parce que j'ai le repos le plus. Demain, je dois être déjà prêt. À Chelsea, aujourd'hui, j'essaie de passer toute la journée ici parce que je pense que les enfants méritent.
Alors, pour prendre par exemple l'exemple de la France, des stages de ce type sont organisés un peu partout dans le pays. Est-ce que vous vous êtes inspiré, pas forcément de la France, mais d'autres pays ou d'autres stages qui se font pour le vôtre?
J'avais des coéquipiers en France aussi, des entraîneurs qui passaient le temps pendant l'été. Je sais que Christophe Lonichon a toujours fait à Nantes un stage pour les gardiens. Il a fait le stage parce qu'il voulait voir le plus grand nombre de gardiens en même temps pour qu'ils s'analysaient s'il y a du talent ou pas. Je savais aussi qu'il avait organisé des choses comme ça. Quand on avait des soucis, des petites hésitations, je pouvais demander parce que je savais qu'il a expérience avec ça. C'est vraiment bien parce qu'on peut voir le style des stages sont différents dans chaque pays. Et notamment en France, il y a une histoire par rapport à une tradition par rapport aux stages. Mais en République tchèque, c'est une des choses qui n'est pas souvent faite. Et c'est pour ça qu'on a essayé de commencer à faire quelque chose qui pouvait inspirer les autres.
Vous êtes gardien de but, donc question un peu obligatoire. Est-ce que l'accent est mis? Est-ce qu'il y a un groupe particulier pour les gardiens? Et qu'est-ce que vous leur proposez de plus par rapport à ce qu'ils font dans leur club, par exemple?
Et évidemment, il y a des enfants qui sont classés par rapport à l'âge et par rapport au poste. Et il y a des gardiens qui sont chaque fois en entraînement spécifique, des gardiens au début, après ils rejoignent l'équipe, comme c'est normalement dans le club. Et les gardiens, souvent ici, on a des enfants qui viennent des villages ou qui jouent pour les petits clubs parce que le stage est ouvert pour tout le monde. Est juste limité par rapport au nombre de personnes et on essaye de voir le talent, de trouver le talent et de montrer la façon à faire en espérant que s'il apprend comment faire des choses ici, ils peuvent amener ça avec eux dans leur club et ça peut leur montrer des façons de travailler, d'améliorer, notamment dans les petits clubs. Il n'y a pas toujours un entraîneur gardien spécifique ou vraiment au niveau qu'il faut vraiment l'aider par rapport à ça.
Est-ce que la formation des jeunes, le travail avec les jeunes footballeurs est une possibilité de reconversion ou une voie qui vous intéresserait après votre carrière ?
C'est une des choses qui est très intéressante parce que le boulot avec les jeunes, c'est l'avenir du foot. Parce que si on oublie les petits gamins comme ça, quand ils ont 14 ans, c'est trop tard de les faire transformer dans un très grand joueur parce que ce qu'ils vont rater des années. Et on essaie d'essayer de leur montrer depuis le départ, de faire des bonnes choses pour qu'ils puissent évoluer beaucoup plus rapide et beaucoup plus effectif.
La République tchèque est un petit pays où on parle souvent de la formation. Il y a aujourd'hui quelques difficultés. On dit qu'il n'y a plus autant de qualité que comme avant, qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent au sport et notamment au football pour d'autres activités. Quel est le regard que vous portez, vous, sur ce qui se fait avec les enfants et les jeunes footballeurs en République tchèque ?
Oui, je pense que c'est de l'école-là. Ça aussi sert à montrer des gens que le foot est toujours là et que c'est bien de le faire, que les enfants vraiment apprécient de jouer au foot. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, je pense que la base des joueurs est plus en plus petite. Et c'est aussi grâce à l'évolution des sports différents. On a des petits sports qui, il y a 10 ans, personne n'a connu. Maintenant, tout le monde est intéressé parce que c'est beaucoup plus facile à faire. On n'a pas besoin de plus de temps. Et je pense que même pour les organisations de la famille, de temps en temps, c'est beaucoup plus facile de les faire. Et comme floorball ou des sports comme ça. Maintenant aussi, il y a un boom de golf, il y a beaucoup de gens qui jouent au golf. Ça amène beaucoup plus d'intérêt un petit peu partout. Et on est une nation où adore hockey sur la glace. C'est aussi une division entre football, hockey sur la glace, maintenant des autres sports. Et la base des petits footballeurs, je pense, est beaucoup plus petite qu'avant. Et quand la base est plus petite, je pense, à la fin, on manque la qualité. Parce que si avant on avait 100 enfants et 20 qui passaient peut-être en première division, maintenant on n'a pas le 100, on n'a que 60. En première division, peut-être il y en a 6 ou 10 et ça fait une différence. Et si ça continue comme ça, ça peut être dangereux. Et j'espère que des choses, des écoles comme ça, ils vont montrer l'intérêt et monter surtout l'intérêt pour les petits, pour les familles, pour le sport. Je pense que même l'association de football tchèque essaie de tout faire pour que la base s'agrandisse encore.
C'est peut-être pour vous compliqué à juger puisque vous ne passez qu'une journée ou deux lors des stages, mais est-ce que vous notez des différences de comportement entre l'enfant que vous étiez et ceux d'aujourd'hui dans l'écoute, dans l'attention, dans l'enthousiasme peut-être par rapport au jeu?
Je pense que l'enthousiasme est pareil, parce qu'ils sont là, parce qu'ils devaient être là, ils devaient jouer au foot. Mais la seule chose, c'est que je pense qu'avant tout ce qu'on a eu, c'était le foot, c'était le sport, c'était le plaisir. Aujourd'hui, dans le temps moderne, on a des internets, on a des PlayStation, on a des choses comme ça qui complètement diminuent l'intérêt aux des choses réelles. Parce que de temps en temps, de passer 5 heures à travailler sur le terrain de foot, c'est fatigant et c'est frustrant quand ça passe pas, mais on peut gagner la Ligue des Champions pendant 3 heures en PlayStation. Et c'est ça ce qui fait aussi la différence, qu'il faut vraiment trouver le moyen d'amener des gens vers des choses réelles. Et c'est une bataille constante contre le monde moderne.
Dernière chose, vraiment, vous avez un petit garçon, justement, est-ce que c'est ce que vous essayez de lui de lui montrer que le plus important, c'est le ballon qu'il faut, jouer.
Oui, il faut lui montrer que PlayStation, il peut jouer quand il veut. Mais le foot, si les trains passent, ils vont les jamais rattraper, ils vont jamais faire une carrière. Mais je pense que même pour la vie, c'est juste un exemple. Je pense que c'est pas juste le foot, c'est aussi la vie. Il faut leur montrer que quand on fait des bonnes choses dans la vie, les bonnes choses vont arriver. Et j'espère qu'ils vont partir d'ici avec cette idée-là.
C'est par cette émission sportive que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Au revoir, à demain.